Le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine des Nations Unies. Au sommaire, à Kinshasa, l'aéroport international de Njili, doté de matériel pour parer à l'éventualité d'une entrée du virus Ebola en RDC, du matériel remis par le Bureau national de l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'actualité de la semaine. La fin des FDLR marquera un tournant qui va changer fondamentalement la situation de sécurité dans l'est de la RDC et dans la région. C'est une affirmation du chef de la MONUSCO, Martin Kobler, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous l'écouterez dans cette édition. Enfin, l'allaitement maternel réduit de 13% la mortalité infantile en RDC. Le taux de cet allaitement se situe à plus de 87% dans le pays. Des chiffres avancés par l'UNICEF en marge de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Un expert de l'UNICEF RDC est justement l'invité de cette édition. Voilà pour tous les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour chez vous. Comme annoncé en titre, la République démocratique du Congo a pris des mesures pour se prévenir contre le virus Ebola. L'épidémie qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest a déjà fait près d'un millier de morts. Dans le cadre de cette prévention, l'OMS RDC a remis des kits de protection personnelle au ministère de la Santé publique. Honoré Missengakalala nous en parle.
Pas de maladie à virus Ebola en RDC certes, mais mieux vaut prévenir que guérir. Les autorités congolaises semblent avoir compris cette sagesse millénaire. Ils ont ainsi réactivé le plan national des contingences et l'Organisation mondiale de la santé, OMS RDC, est venue en appui à ce plan national. C'est dans ce contexte que le bureau au pays de cette organisation a remis mardi 5 août dernier deux kits de protection personnelle au ministère de la Santé publique, du matériel destiné, vous l'avez dit Lydie, à être prépositionné à l'aéroport international de Njili. Ces kits comprennent chacun 50 pièces de combinaison complète pour la protection personnelle pendant l'investigation ou le prélèvement de l'échantillon d'un éventuel cas suspect de la maladie Ebola. Il n'y a pas que la frontière de Njili. À la demande de l'autorité provinciale de la ville de Kinshasa, un troisième kit sera également fourni par le MSRDC pour être prépositionné cette fois au Bitingobila, porte d'entrée et de sortie entre Kinshasa et Brazzaville. Par ailleurs, le 31 juillet dernier, une rencontre avait réuni au ministère de la Santé publique à Kinshasa, l'OMS et d'autres partenaires du système sanitaire. À cette occasion, le représentant de l'OMS RDC, M. Joseph Kabore, avait indiqué que son agence disposait dans chaque province congolaise du même matériel mobilisable à tout moment pour appuyer le gouvernement congolais dans ses efforts de préparation et de réponse à une éventuelle flambée de cette maladie dans le pays. Au niveau international, il faut retenir que l'OMS a réuni mercredi dernier son comité d'urgence pour déterminer si, à ce stade, Ebola constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Au 1er août 2014, le nombre de cas de maladie à virus Ebola s'élevait à 1603, dont 887 morts dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria.
Autre actualité, cette semaine à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni jeudi dernier à propos de la République démocratique du Congo. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies s'est rendu au siège de l'organisation pour faire part à l'organe exécutif de l'évolution de la situation en RDC. Dans son message aux 15 membres du Conseil de sécurité, Martin Kobler a notamment évoqué le cas des rebelles rwandais des FDLR, Paul Matendo.
Martin Kobler, chef de la MONUSCO, a recommandé que la mission et les forces gouvernementales congolaises mènent des actions militaires conjointes contre les factions des FDLR qui ne veulent pas abandonner les armes et agissent contre ceux qui continuent de commettre des violations des droits de l'homme. Devant les 15 membres du Conseil de sécurité, Martin Kobler a indiqué que tous les combattants des FDLR, y compris leurs dirigeants, doivent désarmer immédiatement et ceux qui sont inculpés doivent rendre des comptes. Le chef de la MONUSCO a estimé que la fin des FDLR marquera un tournant qui va changer fondamentalement la situation de sécurité dans l'est de la RDC et dans la région. Faisant le bilan de sa mission depuis un an, il a noté un progrès tangible. Un certain nombre de groupes armés ont été renvoyés au livre d'histoire, a-t-il rappelé, en référence notamment au mouvement M23 qui a rendu les armes l'an dernier après avoir essuyé des cuisants revers contre l'armée congolaise.
Magazine des Nations Unies, Décryptage.
La semaine mondiale de l'allaitement maternel, commencée le 1er août dernier en RDC, s'est clôturée ce dimanche. Chaque année, à travers le monde, l'OMS et surtout l'UNICEF s'impliquent dans la célébration de cette semaine mondiale de l'allaitement. Moïse Kabongo est administrateur en charge de nutrition à l'UNICEF RDC. Il nous explique pourquoi l'UNICEF milite en faveur de l'allaitement maternel. C'est dans un entretien avec Honoré Missinga Kalala.
Moïse Kabongo, bonjour.
Bonjour.
C'est la semaine de l'allaitement maternel. Quelles sont les activités engagées par votre agence, l'UNICEF, dans le cadre de cette semaine, notamment ici à Kinshasa?
Bon, l'UNICEF appuie le gouvernement de la République démocratique du Congo au travers les différents ministères qui ont la charge des enfants, notamment le ministère de la Santé et tant d'autres, selon le programme annuel établi avec les partenaires. Dans le cas échéant, l'UNICEF appuie toute activité en rapport avec la sensibilisation sur l'allaitement maternel et le bien fondé de l'allaitement maternel en rapport avec l'atteinte des objectifs de millénaire de développement.
Est-ce qu'il y a des actions précises que l'UNICEF va appuyer dans le cadre de cette semaine d'allaitement?
Bon, en fait, il y a par exemple les activités de sensibilisation des professionnels des médias, parce qu'en fait, ce sont eux qui sont vraiment la bouche bien autorisée à pouvoir informer les gens, tellement que les gens suivent les hommes des médias. Les hommes des médias, ils regardent, ils voient, ils entendent, ils parlent aussi, ils informent et les gens sont saisis de l'information et peuvent le mettre en action. Ça, c'est un de deux. UNICEF sensibilise aussi au travers de programmes spécialisés du ministère de la Santé, par exemple le programme national de nutrition. Ils sensibilisent les communautés, les hôpitaux, les centres de santé en rapport avec l'allaitement maternel exclusif, l'allaitement maternel optimal pendant cette période ici.
Moïse Kabongo, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'allaitement maternel est si important au point que votre agence se mobilise pour faire sa promotion?
Oui, l'allaitement maternel bien conduit à lui seul, d'après les études mondialement conduites par les experts, diminue la mortalité infantile de 13% déjà à lui seul. Or, le pays a souscrit aussi aux objectifs de millénaire de développement et on va bientôt arriver en 2015 et on devra faire un compte à rebours, voir ce qui est arrivé, quelles sont les avancées dans ce secteur là-bas. Et je peux vous dire que du côté de l'allaitement maternel, il y a suffisamment d'avancées et si vous regardez bien l'enquête démographique et de santé actuelle montre suffisamment qu'il y a des avancées même sur le plan mortalité infantile, parce qu'en fait, étant donné que l'allaitement maternel réduit la mortalité infantile de 13%, déjà il y a suffisamment de réductions de mortalité. Je ne dis pas que c'est seulement l'allaitement maternel, il y a d'autres activités qui sont menées par l'État congolais dans ce sens-là et qui ont milité à la réduction de la mortalité infantile, dont l'allaitement maternel infantile.
L'enfant doit être allaité normalement jusqu'à quel âge?
Normalement, l'enfant est mis au sein dès l'accouchement et la maman peut continuer à allaiter le bébé jusqu'à 23 mois révolus. C'est ce que nous appelons allaitement maternel optimal.
Et quel est le taux, d'après vos chiffres, d'allaitement en RDC en général, surtout dans les grands centres en particulier?
Bon, en fait, selon les enquêtes qu'on appelle enquête GAP à multiples indicateurs, les enfants sont allaités à plus de 97%. Vous allez me dire, mais pourquoi finalement on s'acharne un peu trop sur l'allaitement maternel alors que les enfants sont allaités à 97%? En fait, je veux bien parler de l'allaitement maternel optimal, donc c'est-à-dire les 6 premiers mois sont exclusifs, c'est-à-dire l'allaitement maternel exclusif dès la naissance jusqu'à 6 mois, et après la maman continue à allaiter jusqu'à 23 mois volus. Alors, pour cette catégorie d'allaitement maternel exclusif, on est qu'à 46% d'après les enquêtes passées. Donc, ce qui est encore du travail à faire. Mais c'est déjà un grand pas qu'on a fait parce que, en fait, il y a quelques années, on n'était pas à ces taux-là.
Exclusif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nourrir l'enfant
avec autre chose, avec autre de chose l'eau,
que le lait maternel. Oui.
Voilà, que le lait maternel.
Mmh. Alors, une mère qui est mal alimentée ou insuffisamment alimentée, est-ce que son lait peut avoir une implication positive sur la santé de l'enfant?
La qualité de lait maternel n'est pas entamée, c'est plutôt la quantité. En fait, quand une mère est sous-alimentée, c'est plutôt la quantité de lait maternel qui est entamée, c'est-à-dire elle produit moins de lait maternel qu'est prévu par jour. Donc, à ce moment-là, l'enfant en souffre. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est plutôt alimenter la maman pour qu'elle produise assez de lait. Mais le lait reste intact.
Oui, mais si elle est mal alimentée?
Si elle est mal alimentée, il faut à ce moment-là prendre en charge, c'est-à-dire prendre en charge sur le plan nutritionnel la maman afin qu'elle produise suffisamment de lait maternel.
Alors, comment pensez-vous que le gouvernement congolais devrait s'impliquer dans la promotion de l'allaitement maternel en RDC?
Déjà, le gouvernement congolais fait beaucoup. En ce sens-là, au travers de ces différents programmes spécialisés du ministère de la Santé et autres programmes aussi qui ont en charge la survie de l'enfant. Il y a déjà les directives qui sont sorties qui rendent obligatoire la mise au sein des enfants dans l'heure qui suit l'accouchement, donc l'allaitement précoce des enfants dès la naissance. Ça, c'est déjà un très grand pas que le gouvernement est en train de faire, mais nous pensons qu'il est très important aussi de pouvoir parler, discuter avec les responsables des entreprises qui engagent les femmes, d'accord, à pouvoir mettre en place un cadre qui puisse permettre aux femmes de pouvoir allaiter et se sentir à l'aise d'allaiter les enfants au boulot sans avoir peur de perdre leur boulot. Parce que c'est ça le problème. Le grand problème, c'est que les femmes ont peur d'allaiter les enfants à leur boulot. Tant bien même, ils veulent bien allaiter les enfants, mais par crainte de perdre le boulot, ils laissent les enfants là.
Et justement, est-ce que vous avez peut-être un commentaire à faire par rapport à ces femmes employées qui allaitent de moins en moins et confient plus leurs enfants aux soins des bonnes?
Moi, je pense qu'en fait, la pression devrait être faite auprès des employeurs. Qu'ils puissent s'inscrire dans la logique des objectifs des millénaires de développement, dont l'allaitement maternel fait partie. Donc, s'ils se mettent dans cette logique-là, si parmi leurs objectifs, qui sont bien sûr beaucoup plus pécuniaires, mais et qu'ils mettaient aussi l'allaitement maternel comme objectif, je pense qu'ils peuvent faciliter le cadre d'allaitement maternel et que les femmes peuvent se sentir à l'aise pour pouvoir allaiter les enfants sans avoir crainte d'être revoquées au service.
Est-ce qu'il y a des risques qu'une mère séropositive puisse contaminer son enfant en allaitant?
L'allaitement maternel exclusif bien conduit, il n'y a pas de risque de contamination. Ça, c'est d'après les experts qui ont mené les études sur le plan international. Mais alors, c'est quand plutôt l'enfant est soumis à d'autres alimentations que finalement la muqueuse de son type digestif peut être traumatisée par ces autres aliments et qui peut faire que finalement que la maman puisse maintenant transmettre le virus à l'enfant au travers les voies créées par ces traumatismes. Donc si la maman séropositive, déjà avec le programme en place qu'on appelle PCMé, donc c'est-à-dire prévention de la transmission de la mère à l'enfant, qui sont déjà mises en place, il n'y a presque pas de risque que l'enfant puisse être contaminé si l'allaitement maternel est exclusif jusqu'à 6 mois. Mais c'est seulement quand on mélange qu'à ce moment-là, il peut y avoir risque.
Est-ce que vous avez un mot de la fin par rapport à cette campagne de l'allaitement maternel?
En effet, des progrès fort encourageants sont notés en ce qui concerne le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui a baissé de 148 pour 1000 naissances vivantes en 2007. Pour le moment, il est à 104 pour 1000 naissances aujourd'hui, soit une baisse de 44%. Donc c'est déjà un pas très 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 décisif dans lequel le pays s'est engagé. Donc dans tout ça, il y a l'allaitement maternel qui joue un très grand rôle. Alors, nous devons aussi savoir que la plus grande ressource du pays, c'est d'abord la ressource humaine. Donc, si nous entretenons la ressource humaine, eh bien, le pays pourra avoir des hommes et des femmes capables de pouvoir l'amener à bon port.
Monsieur Moïse Kabongo, merci.
Cette page de nouvelles en bref s'ouvre avec la protection de l'enfant de la MONUSCO. Au moins 8 enfants, dont une fille, ont été recrutés dans des groupes armés entre 2011 et janvier 2014. Des cas documentés la semaine dernière, les auteurs de ces recrutements d'enfants seraient le NDC Tcheka, les Raia Mutomboki, le FRPI, les ADF et le FRF. Les victimes auraient été utilisées telles qu'escortes, gardiens de fétiches, cuisiniers, fournisseurs de produits alimentaires ou encore esclaves sexuels. Plus de 300 jeunes, dont 30 filles, ont participé fin juillet dernier à la conférence des jeunes leaders à Bouimba. Nous sommes dans le Nord Kivu. Objectif, reconnaître, encourager et inspirer le leadership de la jeunesse congolaise, ainsi que susciter un profond désir d'unité pour la paix et la réconciliation parmi les jeunes, sans distinction de tribu, de religion, de classe sociale ou de sexe. Une conférence organisée en copartenariat par le bureau genre de la MONUSCO, la police des Nations Unies et la section des affaires civiles de la MONUSCO. Ces jeunes venaient de toutes les provinces de la RDC, mais aussi du Sri Lanka, des États-Unis et du Kenya. Et cette autre nouvelle, à Bunia, 4 chefs coutumiers et 43 membres de la société civile, dont 36 femmes du territoire de Mahagi, ont participé à un atelier de réflexion sur la problématique des droits fonciers des femmes pour accéder au logement, à la terre et à la propriété. Un atelier organisé du 25 au 27 juillet dernier par UN Habitat et la division locale du ministère du Genre, Famille et Enfants. À Mahagi, la pesanteur de la coutume rend difficile l'accès à la terre pour les femmes. Enfin, 81 réfugiés de la RDC vivent vivant en République démocratique du Congo ont été rapatriés la semaine dernière. C'est le dernier convoi du rapatriement librement consenti de ces réfugiés. Le porte-parole du HCR, Ariane Rumey, l'a souligné mardi 5 août au cours d'une conférence de presse à Genève. Ces personnes font partie de près de 120 000 Congolais rapatriés de la République du Congo avec l'aide du HCR depuis mai 2012. Elle comptait parmi les 160 000 citoyens de la RDC avoir fui vers les pays voisins, oui, lorsque des affrontements avaient éclaté entre les communautés Munzaya et Enyele en territoire de Dongo dans la province de l'Équateur en 2009.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, est l'invité de ce dimanche. Il a effectué une mission de travail à New York où il devait faire son rapport au Conseil de sécurité sur les dernières évolutions de la situation en République démocratique du Congo. Avant de s'envoler, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC était l'invité de Radio Kapi à partir de Goma, au Nord Kivu. Le magazine des Nations Unies revient sur cet entretien. Suivez.
Monsieur le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, bonjour.
Bonjour.
Vous allez vous rendre à New York quelques mois après l'adoption de la récente résolution. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé depuis lors dans ce qui concerne le travail de la MONUSCO?
Voilà, vous avez raison. Je me déplace à New York maintenant. C'est une très très bonne occasion d'échanger les vues avec les membres du Conseil de sécurité. Ce sont nos chefs, les membres du Conseil de sécurité. Et cette fois-ci, c'est une réunion très très importante parce que c'est sur le niveau ministériel, sous la présidence du Royaume-Uni. Vous avez demandé c'est quoi qui a changé maintenant. Je crois nous parlons à Goma aussi aujourd'hui. C'est ma 35e visite à Goma et ça montre l'importance que l'est de ce pays, le cœur de la population, c'est le centre de gravité ici et c'est très important. Nous avons quelques problèmes. Nous avons maintenant le processus de désarmement volontaire des FDLR. On a combattu contre les M23, on a des bons succès. Et les FRDC, conjointement avec nous contre les ADF, maintenant on a un processus politique de désarmement volontaire des FDLR. Mais l'option militaire est sur la table. On a les combats contre Tcheka, contre APCLS. J'étais ici à Goma pour avoir des informations de la force maintenant. De nouveau, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois qu'on avait beaucoup de progrès depuis la dernière session du Conseil de sécurité et maintenant. Et je ne peux pas que remercier mes collègues, mais avant tout les Congolaises et les Congolais. Parce que c'est leur pays. Ce sont leurs efforts, le progrès ici. Mais on reste beaucoup à faire. C'est aussi un message pour le Conseil de sécurité. Réforme secteur sécurité. C'est très important que nous développons une stratégie de départ de la MONUSCO. Nous ne sommes pas ici pour toujours. Il faut partir du pays. C'est pourquoi on peut partir seulement si on ne laisse pas une situation fragile. C'est pourquoi réforme secteur sécurité, c'est un message qui est très important. Et le deuxième, c'est naturellement alors, les élections et le calendrier électoral.
Justement, par rapport au calendrier électoral, l'opposition a lancé à partir de Goma hier la campagne de vulgarisation des articles verrouillés pour dire que les élections présidentielles doivent avoir lieu le 19 septembre 2016. Quel est votre message par rapport à cette campagne de l'opposition?
Voilà, nous attendons le calendrier électoral global maintenant. Et notre position, comme la MONUSCO, c'est très très clair. Ça doit être un processus crédible, paisible, des élections respectant la constitution du pays.
Nous avons appris lundi de la semaine qui s'achève que la MONUSCO a commencé à lancer des tracts à partir des hélicoptères aux ADF pour leur demander de déposer les armes. Du côté des FDLR, c'est presque la même chose. Donc la tactique a changé, les combats viennent en deuxième position, c'est plutôt la sensibilisation qui prend les dessus.
Voilà, on n'a pas quelque chose qu'on appelle en anglais « one size fits all ». Alors tous les groupes armés sont différents, les M23 c'était totalement différent que les ADF. La philosophie était différente, alors les manœuvres militaires ont été différentes. Maintenant, l'ADF est paralysé, c'est l'effort des FRDC. On a aidé beaucoup, mais les ADF, ils sont paralysés maintenant, ils ont perdu le contrôle sur les combattants. Et c'est toujours le succès qui compte. Mais la tactique est toujours différente. Contre les M23, ADF, Tcheka, APCLS, mais aussi contre les FDLR. Mais nous ne voulons pas combattre. Nous voulons achever une solution paisible toujours. Et c'est ce qu'on fait maintenant, conjointement avec le gouvernement, avec la SADC, CIRGL. On fait maintenant. C'est toujours notre but, notre objectif, d'avoir une résolution paisible.
Et juste pour terminer, messieurs les représentants spéciaux, au début de l'année, le projet des îlots de stabilité a été lancé au niveau de la MONUSCO. Aujourd'hui, 8 mois après, quel bilan vous faites de ce projet-là? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'il sera renouvelé?
Voilà, je ne suis pas tout à fait satisfait avec les îlots de stabilité parce qu'on avait, on a maintenant ici en Orchive, on a 2 îlots de stabilité et ça marche très bien. J'ai les informations sur les prix des légumes à Rutshuru, à Kivancha. C'est beaucoup plus bas, aussi à Goma ici, le légume, les haricots verts, les tomates. Alors, dans l'îlot de stabilité, à Rutshuru-Kivancha, on a une amélioration de la situation économique pour la population. Prix de légumes, c'est un des paramètres, un des critères. Mais on a beaucoup d'autres territoires où nous devons avoir des programmes de stabilité. Les îlots de stabilité, je me déplace à New York maintenant, je rentrerai et puis je vais repartir ici à l'Est dans tous les îlots de stabilité que nous avons et nous allons planifier, et je crois que c'est très important, que cette promotion des îlots de stabilité, l'avancement de la situation économique de la population, que ça marche, et les îlots de stabilité sont un des instruments.
Restons au Nord Kivu avec la nouvelle des provinces. À Masisi, plus de 40 000 personnes bénéficient d'une assistance alimentaire du PAM, le Programme alimentaire mondial. Il s'agit de déplacés internes et des familles qui les accueillent. Une aide accordée par le truchement d'Oxfam britannique. Cette assistance se réalise à travers une foire aux vivres organisée dans la localité de Kingi, Rosalie Zawadi.
Madame Solange Pagini, qui a fui son village de Kazinga avec ses 2 enfants, explique qu'avec ses coupons d'une valeur de 72 dollars, elle vient de constituer sa provision des haricots, farine de maïs, du riz, du sel et de l'huile végétale pour 1 mois et demi. Sengiyumva Faustin, un autre déplacé venu du village d'Engoulou, s'est dit soulagé par cette assistance.
Nous sommes vraiment ravis par cette assistance, car nous ne savions pas où trouver à manger. Mais maintenant, nous sommes très contents car nous avons reçu du riz, de l'huile et des haricots. Vraiment, nous sommes très contents. En plus, ces haricots sont produits dans ces milieux. C'est une bonne qualité.
Notons que ces déplacés ont fui les affrontements entre les Raia Mutomboki et les combattants FDDH au mois de mars et avril dernier dans les territoires des Masisi. Diaounse des pardons du PAM au Nord Kivu indique que 40 200 personnes sont concernées par cette foire aux vivres appuyée par le gouvernement canadien. Signalons aussi la satisfaction des commerçants locaux qui font des bonnes affaires à travers cette foire aux vivres. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Lorette Mandal, Africa Télévision, vous avez dit tantôt que le général Amissi Tango Faure a été réhabilité et que la MONUSCO est consciente qu'aucune enquête n'a été menée. Allez-vous vous limiter à faire une déclaration ou vous allez contacter le gouvernement pour que réellement qu'on mène une enquête à son sujet?
Cette question a été posée mercredi dernier par une consoeur de Kinshasa. C'est au directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Scott Campbell, qu'elle a été adressée. Suivez sa réponse.
Le gouvernement a été déjà contacté formellement à cet égard et aujourd'hui nous ne faisons que réitérer notre requête pour une enquête judiciaire.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Nadine Foulan Timba. Timba, c'est le nom de mon époux. Comprenez par là que je suis mariée et mère de 3 merveilleux bambins, un garçon et 2 filles. Je suis licenciée en journalisme, précisément en multimédia à l'IFASIC depuis 2005. Actuellement, je suis journaliste et reporter à Radio Capi et c'est là depuis 2006. Je fais des reportages souvent à caractère social et économique et je présente aussi de temps en temps le magazine Écho d'économie. Comment je gère mon temps libre? Eh bien, je m'occupe de ma maison. Comme on passe une grande partie de notre temps au bureau, Alors, après le boulot, c'est tout à fait normal que je prenne du temps avec mes enfants. Je joue avec eux. Des fois, je me roule par terre avec eux au salon. Je regarde Télétoon ou Pee-wee Plus. Bref, tous leurs dessins animés, quoi. Et des fois, je les accompagne dans des aires de jeux tels que Mafaland, Shoprite, pour ne citer que ces deux-là. Et en ce qui concerne mes préférences, j'aime beaucoup lire des romans. Et mes collègues m'avaient même surnommée Madame Arlequin. Mais actuellement, avec 3 enfants et les boulots et 1 mari, je ne lis presque plus. Chaque jour, je m'efforce de lire ma Bible en tant qu'une bonne chrétienne. Et j'aime aussi écouter la musique chrétienne. Pour ce qui est aspect culinaire, j'aime manger tout ce qui est viande. Et ma famille m'a même surnommée carnivore. Pour mes projets d'avenir, eh bien, j'aimerais travailler dans une autre agence onusienne en dehors de la RDC. Et je voudrais aussi me lancer dans l'immobilier. Il paraît que ça paye bien.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Une journée à noter dans vos carnets pour la semaine qui commence le 12 août, c'est mardi prochain. Ce jour-là, le monde célébrera la Journée internationale de la jeunesse. Le magazine des Nations Unies ne manquera pas de faire écho pour vous de toutes les manifestations en rapport avec cet événement. Fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Nicole Ngaka était à la supervision, Honoré Missenga au reportage et à la coordination, Lydie Bettina vous l'a présenté et Jean-Noël Mokondo l'a mise en onde. Vous pouvez réécouter l'émission sur notre site internet radiookapi.net. Bonne journée dominicale et à la prochaine.